Voilà, c'est ça. Au chapitre, la deuxième épître de Pierre, au chapitre 1, et au verset 5, l'apôtre Pierre, parle de la divine puissance qui nous a tout donné, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. Et alors il dit, c'est à cause de cela, au verset 5, faites tous vos efforts pour joindre, ou pour dans d'autres versions, pour ajouter à votre foi la vertu, qui est la force, la science. C'est-à-dire, vous vous rappelez, je vous ai parlé que nous avons une science au sujet des choses de la foi. À la science, il faut ajouter la tempérance. À la tempérance, il faut ajouter la patience. À la patience, la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Parce que si ces choses sont en vous et qu'elles y sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ajoutez. Alors, je vous disais tout à l'heure, pendant les chants, que, avec Michou, nous avons marché sur les sentiers poussiéreux de la Terre Sainte, c'est-à-dire d'Israël, là où Jésus a marché sous le même soleil, parce que on ne sait pas si vraiment il a marché sur cette terre-là, ça fait quand même 2000 ans, elle était beaucoup remuée, la terre, Je ne pense pas qu'il y a encore un caillou, n'est-ce pas, que Jésus aurait pu shooter en marchant. Parce que tout a été bouleversé, il y a des villes qui ont été construites, vous savez que les champs, enfin tout change tout le temps dans la nature, mais c'est quand même le pays, c'est l'endroit, ce pays que Dieu a choisi. Et plus fort que jamais, c'est drôle quand on visite ce pays, après on a une conscience différente. Moi j'ai pas tellement, vous savez, pour ceux qui me connaissent bien, j'ai pas tellement le sens de l'orientation, donc pour moi la géographie c'est bof, même la géographie de mon pays c'est pouf. C'est-à-dire que je parle de la Suisse, je vous parle même pas de la France. J'ai toujours cru que Marseille c'était dans le nord. Non, c'est pas vrai. Non, quand même, je suis pas bête à ce point-là. Mais enfin, c'est pour vous dire, voilà. En visitant ce pays, maintenant, quand je lis les Écritures, je vois mieux où sont les endroits, et combien de temps on met pour aller d'un endroit à l'autre, et tout ça, ça humanise la chose, ça la rend plus près de nous. Et plus fort que jamais, je peux déclarer, mes frères et sœurs, que Jésus-Christ est vraiment le même Dieu que le Dieu Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est vraiment le même Dieu. Nous n'avons pas trois dieux. Nous avons un seul Dieu. Il est notre Père qui s'est fait homme. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Dieu est un. Dieu est un, un esprit. Dieu est un en force. Il est un en objectif. Il est un en voix. Il est en parole. Je veux dire, il n'y a pas une double parole. Dieu est un en gloire, en volonté. Dieu est un en bonté, en miséricorde, en grâce. Dieu est un. Il est entier. Il est un. Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ, c'est Dieu qui s'est fait homme pour venir nous révéler le nom par lequel nous devons être sauvés. Dieu, Jésus-Christ, est un dans toutes ses formes et sous toutes ses facettes. Je crois absolument cela. Jésus-Christ, la Bible nous dit, il est né de la Vierge Marie, et à partir de 12 ans, il a commencé à s'occuper des affaires de son Père, parce que Jésus était Dieu limité dans un corps, c'est-à-dire il s'occupait sur la terre des affaires de Dieu qui, lui, est illimité. Pour moi, c'est pas un mystère, c'est pas un problème. Dieu étant omniprésent, ça ne me gêne pas que Dieu remplisse toutes choses et soit en même temps dans un corps. Ça vous gêne, vous? Ça fait pas de lui deux personnes. Pas de problème pour moi. Étant donné qu'il est illimité, omniprésent. Il est là en ce moment avec nous, mais il est aussi avec les Fauvelles qui sont en train d'inaugurer leur nouvelle église à Brie. Vous croyez ça? Ben moi aussi, je crois ça. Il a une vie, il a mené sur cette terre une vie absolument parfaite. Il nous a donné exemple de tout péché, il nous a donné en cela un modèle à suivre à nous qui sommes venus pour le salut. Il est notre sauveur. Nous croyons tous les sermons qu'il a pu prononcer et que la Bible nous transmet. Nous croyons ce que il a dit dans ses sermons, ce qui est écrit. Nous croyons que c'est lui qui l'a dit. Il y en a qui disent qu'on est bête de le croire. Eh ben, tant pis, je préfère être bête en croyant ce que Jésus dit plutôt que de ne pas le croire. Ce qu'il me dit me fait du bien. Ça me montre un chemin à suivre. Ça me donne une direction. Ça me rassure. Ça me fait du bien. Ça me fortifie. Ça me donne du courage. Eh ben, si les autres y trouvent rien, c'est bien dommage pour eux, hein. Et moi, ça me fait du bien et j'aime lire tout ce qu'il a dit. Nous croyons, chacun d'entre nous, que tous les miracles qui sont décrits dans la Bible sont vrais. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ça, c'est vrai. Et nous croyons que sa mort et sa résurrection sont des faits absolument historiques. Et nous sommes choqués encore davantage quand nous voyons des gens qui nient cela. Vous savez, avec Michou, on est allé visiter le musée de la Shoah, là-bas en Israël. Et quand je pense qu'il y a encore des négationnistes, des gens qui nient cela, mais quelle honte, eh ben ça me choque encore plus quand il y en a qui nient que Jésus-Christ est mort et ressuscité. C'est des négationnistes, ces gens-là. En France, il y a une loi qui punit les négationnistes. On devrait... Non, je veux pas, c'est pas la charia avec notre Dieu. Dieu s'en fiche que vous n'y croyez pas. Et ça lui est complètement égal. Mais n'empêche que c'est historique, c'est un fait historique, c'est vrai. Jésus-Christ est ressuscité, il est mort, il est ressuscité. Et nous croyons qu'il a pris sur lui tous nos péchés, mais pas seulement, il a pris aussi tous nos chagrins, toutes les maladies du monde, il a pris tout ça sur lui. Il a saigné pour ça. Il était dans une angoisse terrible à cause de tout cela. Tous les pores de sa peau ont saigné. Gethsémané, j'ai visité un endroit qu'on appelle Gethsémané, là-bas, avec des oliviers, on dit qu'ils ont 2000 ans. Là aussi, je doute un peu, mais enfin, m'a garanti que c'était vrai. Enfin, bon. Je sais que les oliviers, ils poussent des rejetons sans arrêt, que bon, voilà, mais enfin, bon. Je dois être un espèce de Thomas, moi. Hein. Mais moi, je crois en Jésus-Christ. Que ces cerisiers, non, ces oliviers, 2000 ans ou pas, à la limite, bon. Mais Jésus-Christ, je crois. Amen. Et il est mort, finalement, sur la croix à Golgotha. Nous croyons ça. Dans sa grâce, il nous a fait le don de le savoir et de le croire. Jésus-Christ est véritablement le Fils de Dieu. Il a été crucifié à notre place. Quand on dit il est mort pour nous, ça veut dire il est mort à notre place. C'est-à-dire que la crucifixion, c'est ce que moi je méritais à cause de mes péchés, c'est ce que vous mériteriez à cause de vos péchés. Mais il l'a fait à notre place. Et on sait qu'il est ressuscité le troisième jour. À cause de cela, nous ne pouvons pas croire qu'il est mort un vendredi, parce que sinon il n'aurait pas pu rester 3 jours et 3 nuits dans le tombeau et ressusciter le dimanche. Mais encore là, c'est de la religion, c'est-à-dire de la bêtise. Il faut fouiller les Écritures pour comprendre. Et tout ça, c'est dans les Écritures, mais il faut les fouiller un peu, se donner de la peine, être attaché aux Écritures. Il est les prémices de la résurrection. Là aussi, tout le monde le dit. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu des résurrections avant lui? Lazare est ressuscité avant lui. Le fils de la veuve de Naïn aussi était ressuscité avant lui. Pourquoi il est les prémices? Pourquoi la Bible nous dit qu'il est les prémices de la résurrection? Ben, je vous le dirai pas. Vous n'avez qu'à chercher. Mais c'est vrai, il est les prémices. Mais cherchez un peu pour savoir pourquoi c'est dit qu'il est les prémices alors que c'est pas le premier à être ressuscité. Il faut le chercher. Alors, il faut pas qu'on vous mâche tout. Cherchez, vous trouverez. Moi, je sais, on en parlera. Je vous en parlerai un autre jour. Mais en attendant, cherchez, puis on va voir, on va comparer nos réponses. Il a rompu par sa résurrection les liens physiques de la mort. Il a rompu les liens spirituels de l'enfer. Il a rompu tout ça. Il a pris les clés du séjour des morts. Maintenant, il les met partout, en haut, en bas, en dessous, partout. Il les met partout. Et il nous assure un avenir immortel, mes frères et sœurs. Un avenir immortel. Et ceci pour notre corps et notre esprit. C'est ça le salut de l'âme. L'âme, c'est la fusion entre le corps et l'esprit. Quand un corps et un esprit sont ensemble, ça fait un être vivant. Le mot être vivant signifie, ça se dit âme. Il est venu pour sauver notre âme, c'est-à-dire pour que notre esprit puisse vivre éternellement avec un corps. Éternellement. Bon, j'espère qu'il n'aura pas la même allure que celui que j'ai en ce moment. Je préférais qu'il ait à peu près 40 ans de moins. Hein? Je vois Suzanne qui rigole. C'est vrai, hein? Ça serait bien quand même. Je crois qu'on va tous ressusciter. Magnifique, glorieux, super. Cet avenir, mes frères et sœurs, il ne peut s'accomplir dans la plénitude de sa gloire que quand on le reçoit comme notre sauveur. Il est le sauveur, mais nous ne pouvons être sauvés qu'en recevant, en croyant, en acceptant, en louant Dieu, en remerciant Dieu d'avoir fait cet acte merveilleux de rédemption. Il n'est pas le sauveur de tout le monde. Oui, il voudrait sauver tout le monde, mais il n'y a que ceux qui croient en lui, qui le vénèrent, qui l'adorent, qui seront au bénéfice de ce salut. Les autres, non. Pourquoi? Ben parce qu'ils veulent pas. Ils veulent pas. Ben ils veulent pas. S'ils veulent pas de Jésus ici-bas sur la terre, qu'est-ce que vous allez les obliger à vivre éternellement avec Jésus? Ça va être l'enfer pour eux. Hein? Donc faites votre choix. Et il faut aussi, ce que nous dit la Bible, reconnaître son nom comme le seul nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. De plus en plus d'évangéliques font des espèces de compromis avec d'autres choses, d'autres croyances. Nous croyons que c'est le seul nom. Et puis tant pis pour les sentiments et tant pis pour toutes ces choses. Ça, c'est la vérité. C'est ce que Jésus dit. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que je crois. Sinon, je ne suis pas un croyant en Jésus. Amen. C'est ce que je crois parce qu'il l'a dit. Il n'y a aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Il n'y aura jamais de salut en aucun autre. L'apôtre le dit dans Actes 4, 12. Si c'est dit, je le crois, j'adhère, je suis disciple. Amen. C'est pas méchant pour les autres. Maintenant, si ça vous trouble qu'on ne peut être sauvé que par Jésus et que vous dites, ah, mais alors, les pauvres hindous, ben, allez leur prêcher. Jésus dit, allez prêcher par tout le monde. C'est une bonne nouvelle pour eux. Allez donc leur prêcher plutôt que de faire du sentiment là-dessus en disant, c'est pas juste qu'il n'y en ait qu'un seul nom par lequel on peut être sauvé. Obéissez à ce Jésus en qui vous croyez et allez leur annoncer à ces gens qui ne savent pas afin qu'ils puissent savoir. Amen. Nous déclarons avec la Bible que Jésus reviendra sur la terre. J'ai vu l'endroit où il va poser ses pieds quand il va revenir. Et seulement quand il va revenir, ça sera avec puissance, ça sera avec majesté, ça sera avec gloire, ça sera pour régner en roi, en seigneur, ça sera pas le... Pour le moment, il est notre bon berger. Pour le moment, il est le berger, le gardien de nos âmes, comme il est dit dans 1 Pierre 2, 25. Mais alors, il sera le roi. Et ça va pas discuter, là. Ça va plus être le doux Jésus. Non, ça sera... Il va restaurer la loi. Ça va être... Ben voilà, mais il faut aussi dire que quand il reviendra, pour régner, il va régner sur quoi? Sur de la racaille. Sur tous ceux qui auront pactisé avec le diable pendant les 7 ans de la tribulation. C'est vrai, n'est-ce pas? Donc, il va pas pouvoir jouer avec eux en leur disant, voilà, je vous fais confiance, mon petit troupeau. Non, ça va plus être ça. Ça va être terrible. Et ces choses que je viens d'énumérer là, en fait, ce sont les bases fondamentales de notre foi. Mais ce ne sont que des bases. Il y a toutes les autres choses qui sont des annexes. Alors, peut-être que ça va vous choquer, le mot annexe, mais on va étudier ça. Écoutez-moi bien. Souvent, en tant que parents, on demande à nos enfants, quand ils rentrent de l'école, et même quand on est grands-parents, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Hein? Ou alors, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à la classe biblique? Parce que les enfants vont à une classe biblique. Eh bien, les enfants, en général, parlent peu, ils disent, bon, puis ils nous disent un petit truc comme ça. Mais s'ils voient qu'on s'y intéresse, alors c'est une porte ouverte pour une conversation, pour aller plus loin. Il serait bon aussi que vous posiez cette question, qu'est-ce que tu vas pouvoir faire cette semaine avec ce que tu as appris? Vous voyez? Et c'est vrai que quand on pose la question comme ça, déjà ça suscite des réponses un petit peu plus pratiques, un petit peu plus recherchées. Hein, des fois quand on dit à un enfant, alors t'as appris quoi aujourd'hui à l'école? Bof, rien, parce qu'il a pas envie de vous raconter, il est fatigué. Mais si vous, voilà, vous voyez ce que je veux dire, l'intéresser, lui montrer que vous vous intéressez et que vous voulez l'écouter. J'ai lu, pour quelqu'un qui sait pas que à 10h je prêche, j'ai lu il y a pas longtemps, dans le livre de Mormon, je lis du tout, hein, je lis aussi Tintin, je lis, qu'est-ce que je lis encore? Tout, je lis de tout. Venez voir ma bibliothèque, c'est énorme. Eh bien, j'ai lu dernièrement dans le livre de Mormon qu'à un certain moment, le peuple de Dieu se rassemblait un jour par semaine et ils appelaient ce jour le jour du Seigneur. Bon, alors il est écrit là que ce jour-là, ils louaient Dieu, ils écoutaient les enseignements et puis lorsque le peuple tout entier avait loué Dieu, chacun rentrait chez soi, ne parlant absolument pas de Dieu, jusqu'à ce qu'il s'assemble une semaine plus tard au jour du Seigneur. Ça vous rappelle pas quelque chose? Alors il y a un prophète qui s'est levé, je vous lisais toujours ça dans l'histoire, dans les livres des Mormons, un prophète s'est levé et il a dit, « Oh Dieu, je t'invoque !» Et cependant, tout leur cœur est englouti dans l'orgueil. « Oh Dieu, je t'invoque !» Ils t'invoquent de la bouche, tandis qu'ils sont démesurément boursouflés des choses vaines. Ben voyez, mes frères et sœurs, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein. Nous croyons dans les principes fondamentaux. Nous les connaissons par cœur, à tel point que pour beaucoup de chrétiens, même dans les églises où il y a des chrétiens nés de nouveau, ces principes deviennent une tradition. Les principes fondamentaux dont je vous ai parlé au début, ce ne sont que des portes ouvertes. Et j'ai appelé les autres choses des annexes, mais ces annexes sont des annexes saintes. Le mot annexe vient du latin annexus, vous voyez que c'est pas compliqué, qui signifie attaché à. Tout ce qui se trouve dans les saintes écritures est rattaché à nos principes fondamentaux. Ils sont liés à la chose principale. Il y a une chose principale et il y a des choses qui y sont attachées. Les écrits d'Enoch sont des écrits prophétiques que l'Église éthiopienne a reconnus comme saints depuis des siècles. C'est dans leur Bible. Nous, on l'a enlevé parce que l'Église catholique n'aimait pas trop qu'on parle des anges et tout ça. Ça les embêtait. Donc, ils ont enlevé ça. Puis les protestants, on est resté sur le même point. Puis les évangéliques ignorent même tout à fait qu'il y a un livre d'Enoch. Ils savent juste qu'une petite prophétie, encore, s'ils le savent, une petite prophétie dans la lettre de Jude. Mais il y a un livre d'Enoch qui explique, qui commente, qui complète les révélations données aux prophètes et aux apôtres. Pour ceux qui viendront à la dernière génération, pour vous qui avez lu le livre d'Enoch, vous savez que c'est vrai. Ces écrits sont une annexe. Ils sont attachés à l'écriture sainte et en cela, ils sont saints. Est-ce que vous me suivez? Ils sont saints. Et par exemple, sans même parler d'Enoch, qui est un livre qui n'est pas encore dans la Bible, parce que vous savez que maintenant, ça discute dur. Vous avez vu la nouvelle Tob, là, ils ont encore rajouté 5-6 livres dans leur Bible. La Bible Tob, c'est la Bible œcuménique, c'est-à-dire aussi bien protestante que catholique. Dans les protestants commencent un petit peu à se mouiller dans ce domaine-là aussi et à se rendre compte qu'il y a d'autres écrits que simplement ce que nous avons eu depuis la Réforme ou depuis de longtemps, disons. Et qu'est-ce qu'on doit faire, par contre, avec des écrits qui sont dans nos Bibles, comme par exemple les mystères de Daniel? Daniel parle de mystères et il dit qu'ils doivent être révélés à la fin. On sait qu'on est à la fin. Tout le monde dit Jésus revient. On a eu Pierre Gilbert encore hier qui a parlé sur leurjuste.org et qui a fait 2 conférences. Ces choses sont aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alors mes frères et sœurs, C'est à nous qu'appartient le devoir et le pouvoir de les annexer. Nous devons les connaître, nous devons savoir ce que cela signifie et les annexer, c'est-à-dire les attacher, les faire entrer dans le groupe de ce qui est déjà révélé depuis longtemps et qui forme nos principes, nos bases fondamentales. Ça n'est pas quelque chose d'étrange, c'est simplement quelque chose qui ne doit être révélé qu'à la fin. Et ben voilà, mais maintenant, il faut savoir, puisque nous sommes à la fin. Tout le monde dit, tous les chrétiens évangéliques, alléluia, Jésus revient, c'est la fin, alléluia. Oui, mais à la fin, des choses doivent être révélées, la connaissance doit augmenter, l'amour doit monter en même temps. Mais ces choses doivent être annexées, c'est-à-dire attachées aux principes fondamentaux que nous avons déjà. Que faire avec 1 Corinthiens 15, 29, par exemple, au sujet du baptême pour les morts? Ça, il nous est donné à nous d'annexer, c'est-à-dire de faire entrer dans le groupe des révélations concernant le salut. C'est un texte qui entre de plein pied dans l'histoire de la rédemption, du salut. Vous n'y croyez pas, vous êtes libre, mais c'est bien dommage. Parce que vous vous privez et vous privez beaucoup de monde au sujet de quelque chose qui est fondamental, mais vous ne croyez pas que c'est fondamental. Vous voulez rester avec votre fondamentalisme à vous. Les principes fondamentaux au salut sont clairs, mais il y a des annexes, du mot annexus, c'est-à-dire il y a des choses attachées à ces principes fondamentaux, des choses qui ont été rejetées au cours des siècles par l'Église apostate et qui maintenant doit être, et ça a été rejeté, maintenant ça doit être annexé. Qui dit amen? Amen. Et il y a aussi un acte à faire au sujet de ces annexes. C'est celui de s'annexer nous-mêmes. C'est-à-dire de nous attacher nous-mêmes à cela. Jésus, quand il a vu, il a lu dans la synagogue, l'Esprit du Seigneur est sur moi pour ceci, pour cela, pour rendre la vue aux aveugles. Et il a dit, ça c'est moi. Il s'est attaché à ça, il s'est annexé à cette écriture. Eh bien, il y a des textes dans les écritures qui nous concernent, nous, dans cette fin des temps, et nous devons nous annexer à ça pour pratiquer ça. Tout au début, dans la Genèse, il n'y avait pas encore beaucoup d'écriture, il n'y avait rien. Hein. Il y avait Enoch qui avait écrit son bouquin. Et puis Noé, voilà que Dieu lui dit qu'il faut qu'il construise une arche. Ben, il a annexé cette idée à sa vie. Hein. Et c'est ce qui fait qu'il a construit l'arche. Sinon, il aurait dit, « Oh, mais c'est une jolie histoire, l'arche de Noé. Mais c'est, voilà une histoire qu'elle est jolie. Qu'est-ce qu'on pourrait prêcher au sujet de ça ?» Non, il a fait. La chose. Eh bien, nous, il y a des textes dans la Bible. C'est pas seulement dans la Bible. Ça doit être annexé à nos principes fondamentaux et ça doit être pratiqué. On doit s'annexer à ces choses-là parce qu'elles nous concernent. Nous, c'est nous qui sommes ces chrétiens de la fin des temps et c'est à nous de faire les choses afin que l'Évangile soit rétabli. Jésus ne reviendra pas avant que les choses soient rétablies. Viens, Seigneur Jésus, et puis vous faites pas. Quand vous prierez la prochaine fois, viens Seigneur Jésus, rappelez-vous, si vous ne faites pas ce qu'il dit, votre prière ne peut pas être exaucée. Déjà, nous nous attachons à notre ministère communautaire, attachons-nous aux autres annexes de façon exclusive. Là, ils sont fanatiques jusqu'au point d'aller tuer. Nous, on est fanatiques pour la vie. Amen. Amen. Un jour, j'ai entendu un homme de Dieu qui disait, quelqu'un l'insultait en lui disant, t'es un fanatique. Il a dit, oui, je suis un fanatique, je suis comme les arbres, je vais droit vers le ciel. C'était joli, hein? Les gens dont je parlais tout à l'heure se réunissaient, louaient Dieu, écoutaient les enseignements, mais une fois sortis de là, ben, ils n'en parlaient plus. Mais pourquoi? Il y a une raison. Pourquoi vous pensez qu'ils n'en parlaient plus? Je vais vous le dire. Pourquoi en parler? Parce qu'ils avaient fait le tour de tous ces principes fondamentaux. Ils connaissaient tout ça sur le bout des doigts. Ils connaissaient toutes les doctrines. Ils savaient tout. Ils en avaient déjà parlé. Ils savaient plus quoi dire. On va pas reparler tout le temps. Mais c'est ce qui se passe un peu dans les églises. Vous allez dans les églises, on vous parle encore de Bartimée. Et on vous parle encore de Zachée sur son sycomore. J'en ai vu des sycomores, je sais à quoi ça ressemble maintenant. Hein, on peut, mais attendez, mais il y a d'autres choses dans les Écritures. Au bout d'un moment, il y en a marre de parler. C'est pourquoi ils n'en parlaient plus. Ils sortaient de leur réunion, jour du Seigneur, où on avait loué le Seigneur, écouté la parole du bon pasteur, et puis on sortait, puis on parlait d'autres choses. Parce qu'on en avait marre de toujours parler de ces mêmes choses dont on parlait depuis des dizaines d'années, et on connaissait les 4 points du salut, les 3 points de la guérison, les 6 points du baptême, les 18 points du Saint-Esprit, les 40 points de la... Vous voyez ce que je veux dire? Ça devenait une espèce de masturbation spirituelle. Ils en avaient ras-le-bol, ils avaient envie de vivre quelque chose. Mais ils ne savaient pas quoi, parce que ceux qui officiaient dans leur culte radotaient toujours les mêmes trucs. Ils étaient au clair sur tous les sujets fondamentaux. Le mot fondamental vient du latin fundamentalis, qui signifie qui est à la base, qui se rapporte à l'essentiel. Simone ne va pas me contredire. En musique, on parle de la note fondamentale. Elle fait oui. Tu sais ce que c'est? Si vous ne savez pas, je vais vous le dire. La note fondamentale, c'est la première note dans la série des harmonies. Elle est la base d'un accord. Quelle que soit sa place dans cet accord, c'est la note fondamentale. Mais il ne peut pas y avoir un accord s'il n'y a que la note fondamentale. Vous me suivez? C'est logique. Il faut qu'il y en ait d'autres qui lui soient annexées. Vous me suivez, je vois. Il faut qu'il y en ait d'autres qui lui soient attachées pour que ça forme une harmonie, pour que ça soit beau, pour que ça nous réjouisse, pour qu'on soit dans l'exaltation quand on écoute la musique. Parce que vous avez vu Mr. Bean, hein, aux Jeux Olympiques. Dang, 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 dang. Ben, s'il n'y avait pas l'orchestre derrière, ben, dang, 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 au bout d'un moment, il y en a marre, et puis on coupe le son. Et je coupe le son. En musique. Maintenant, en physique. En physique, le niveau fondamental, c'est le niveau le plus bas d'énergie. C'est le niveau le plus bas d'énergie d'une molécule, d'un atome, d'un noyau, enfin, etc. C'est la forme la plus basse de l'énergie. Donc, quand on dit Jésus-Christ est Dieu fait chair, Emmanuel, Dieu avec nous, qui est venu sur la terre, qui a vécu, qui a prêché, qui a fait des miracles, qui est mort, qui est ressuscité pour nos péchés, là, 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 tout ça, c'est le niveau le plus bas. Il faut un excès pour qu'il y ait de l'harmonie, pour que ça devienne vivant, pour que ça devienne beau, pour qu'on vibre. Sinon, c'est une connaissance. Voilà, au bout d'un moment, ben, on a tout dit, puis voilà, on l'a dit. Amen. Le niveau le plus bas énergique. Alors, notre base de foi, nos croyances fondamentales, sont le niveau le plus bas d'énergie, c'est-à-dire de lumière, de révélation. Il faut bouger un peu. J'ai écouté les prédications d'Alain Mesme, j'ai écouté les prédications de Nicolas, j'ai retenu une chose. Il faut que vous vous habituiez à être des visionnaires. N'est-ce pas ça qu'ils ont dit ici même, pendant que nous étions en Israël? Il vous faut voir là où les gens ne voient rien. Il vous faut voir. Par manque de révélation, par manque de vision, le peuple meurt. Et alors, voilà, ben, on ne s'entretient plus des choses sacrées, et on s'enfle, on se boursouffle de trucs vains, de soucis, de machins mondains, comme les toutes sortes de tourments. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as appris à la classe biblique? Qu'est-ce que tu as appris au culte? Qu'est-ce que tu as appris en écoutant Internet sur Révélation Bible? Et qu'est-ce que tu vas pouvoir faire cette semaine avec ce que tu as appris? C'est ça. Amen, vous voyez? Ah, ça c'est bon. Ce que nous avons reçu de Dieu, mes frères et sœurs, c'est trop précieux pour ne pas en être discuté. C'est trop précieux pour ne pas en être discuté en dehors de ces 4 murs. Mes frères et sœurs, assurez-vous que la parole enseignée fasse partie de la conversation entre vous, avec vos enfants, avec vos collègues, il faut que ça fasse partie des conversations. Méditez ces choses ensemble, entre frères et sœurs, ensemble, en famille, avec votre femme, avec votre mari, avec vos enfants. Parlez-en. Mettez un moment à part pour le faire. Méditez ces choses. Demandez au Père, au nom de Jésus-Christ, le pouvoir de les comprendre si vous ne comprenez pas. Peut-être votre femme a mieux compris que vous. Peut-être que votre mari a mieux compris que vous. C'est possible même que vos enfants aient mieux compris que vous. Mais si vous ne parlez pas, qu'est-ce que vous voulez qu'ils vous disent? Parlez-en. Et Dieu, par le Saint-Esprit, si vous demandez au nom de Jésus, il vous éclairera pour que vous puissiez comprendre. Et ces choses prépareront vos lendemains. Déliez vos langues, mes frères et sœurs, et entretenez-vous de ces choses. Ça va créer des lendemains différents, plus spirituels, plus vivants, plus joyeux. Créer des lendemains, créer. C'est le désir le plus profond de tout être humain, de créer. Vous n'avez qu'à voir les gamins, vous leur donnez un crayon, ils veulent refaire la Joconde, hein. Créer. Mais nous sommes faits à l'image de Dieu qui est créateur. Nous avons tous en nous ce désir de créer quelque chose qui n'existe pas. Une chanson, une peinture. Mélodie hier m'a montré, elle a brodé les initiales de notre nom de famille sur des tissus, sur des linges. Créer, faire quelque chose. Nous avons tous le sentiment, ce désir de créer quelque chose, exprimer ce désir. Le fait de créer, ça nous donne un sentiment d'accomplissement. Malheureusement, aujourd'hui, les gens ne chantent plus, ils mettent un disque, et c'est le disque qui chante à leur place. Quel dommage. Ne restez pas, mes frères et sœurs, aux principes fondamentaux. Cherchez, trouvez, parlez, progressez. Faites progresser les autres en annexant ce qui est délaissé par ceux qui sont les fondamentalistes. Laissez-les tranquilles, ils aiment ça, c'est bien. Essayez de les inspirer un petit peu, mais vous verrez, il n'y a pas beaucoup de chance pour que ça bouge, je vous le dis en vérité. Les fondamentalistes, ils s'opposent à toute réflexion autre que la leur. C'est comme ça ? Ils ne veulent pas. Mais vous, créez. Prenez ce qui semble inorganisé. Et puis, pour faire quelque chose de beau avec. Vous êtes les fils et les filles de l'être le plus créatif de l'univers. C'est en nous, ça. C'est en nous. Alors, il faut le réveiller, ça. Mes frères et sœurs, plus vous vous reposerez sur l'aide du Saint-Esprit, plus votre capacité de créer va grandir. C'est la possibilité qui nous est donnée. Vous savez, on a eu de la musique, je me rappelle de Renaud Robinet qui nous disait, oui, bon, ben la musique des psaumes de David, ça devait être, il y avait une harpe avec 4-5 cordes et ça devait faire clong, 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 clong. Mais c'était assez primaire, disons que moi je préfère quand même Rachmaninoff, hein. Bon, c'est sûr. Mais il y a eu d'autres choses depuis Rachmaninoff. Mais si vous écoutez les gens, ils vont vous dire que les choses nouvelles sont pas belles, sont discordantes, c'est faut pas écouter. Moi j'étais pendant des années, j'écoutais pas. Comment il s'appelle l'autre là? Mince, son nom m'échappe là tout d'un coup. Voilà, Debussy, Ravel, puis un autre encore pire, c'est. Oh, je sais plus. Bartok. Bartok, merci Richie. Bartok. Parce qu'on m'avait tellement dit que c'était moche, ben, je croyais. Puis un jour j'ai dit, mais attends, c'est en lisant un bouquin, la biographie de James Dean. Et puis je m'aperçois que ce gamin de 22-23 ans aimait Bartok, et puis qu'il réunissait des copains chez lui, il fermait à clé, il les obligeait à écouter du Bartok, puis il leur expliquait. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce Bartok finalement? Je veux savoir. J'étais au magasin, j'ai dit, je veux tel et tel morceau de Bartok, parce que James Dean disait quel était son morceau préféré. Tel mandarin miraculeux. J'ai dit, bon, je veux savoir. Combien vont acheter le mandarin miraculeux maintenant que de Bartok? Là, je vous en ai parlé. Combien vont aller l'acheter pour se dire, tiens, qu'est-ce que c'est? Ben, je vous mets en 1000, pas beaucoup. Hein. Écrivez-moi si vous l'avez acheté depuis cette prédication. J'ai écouté, je trouve ça admirable. J'ai fait écouter ça à plusieurs d'entre vous qui m'ont dit, waouh, mais c'est magnifique. Ben oui, c'est magnifique. Mais voilà quelqu'un qui a créé quelque chose de nouveau. On est arrivé dans les années 60, c'était yeah 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 Puis d'un coup sont arrivés quatre garçons dans le vent avec une idée nouvelle. Mes parents disaient « Musique de sauvage !» Et maintenant vous écoutez « Hey Jude !» C'était pas magnifique? Ils ont révolutionné la musique. Qu'est-ce qu'on a fait depuis? Ben, y a d'autres choses qui sont arrivées. Il faut pas avoir des préjugés. Il faut pas se bloquer. Il faut chercher pour trouver, apprendre, grandir, partager avec les autres, ça crée la communion, ça crée des groupes, des groupes d'intérêt, ça, on peut construire quelque chose avec. Et avec la parole de Dieu, c'est infini, c'est plus que la musique, c'est plus que tout ce que vous voulez. La parole de Dieu, c'est infini. Vous croyez que vous connaissez tout, parce que vous croyez que Jésus sauve, guérit, baptise et revient, mais alors vous êtes, mais alors loin, ça c'est les fondamentaux. Il y a tellement de choses à annexer, et tellement de choses dans lesquelles nous avons à nous annexer. Amen. Et alors là, vous allez, dans cette vie et dans votre destinée à venir, avoir une qualité différente de vie. Il vous faut faire confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vous laissera pas tomber dans des hérésies, dans des erreurs. Le diable est beaucoup moins fort à vous conduire dans l'erreur que le Saint-Esprit est capable de vous conduire dans la vérité. Et même si vous vous fouvoyez. J'ai parlé avec un frère. Il y a 5 ans, il a rencontré un prophète qui est le singe de Parakou, et il a écouté, et il était séduit pendant 5 ans. Et puis là, ben, il a compris. Pendant 5 ans, ben voilà. Mais c'est quoi 5 ans par rapport à l'éternité? On s'en fout de 5 ans, c'est pas grave. Et maintenant, il a compris, il a abandonné tout ça, et il revient. Vous voyez, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. On peut errer un moment, puis on revient après toujours dans la parole de Dieu, dans l'équilibre, dans les choses qui sont bonnes. Amen, ça c'est bon. Moi j'aime bien, il vous faut faire confiance au Saint-Esprit. Remettre votre vie dans les mains de Dieu en lui disant, éclaire mon intelligence alors que je suis en train de lire, alors que je suis en train de parler avec mes frères et sœurs. Éclaire mon intelligence pour que je comprenne. Reposez-vous sur lui, apprenez de lui, partagez ce que vous avez appris avec les autres et ainsi vous grandirez pour sa gloire, pour votre bien et pour le bien de vos contemporains. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus, aide-nous mon Dieu à vivre ces choses, à te glorifier ainsi, à avoir une plus grande conscience de ta présence et à être plus pratique dans notre vie spirituelle. Merci Seigneur de nous garder dans ta paix. Amen. Amen.